France Inter. Le 18-20, Fabienne Sintès.
Vous n'avez pas encore 40 ans, autant dire que les empoignades sur l'âge de la retraite, pour l'instant, elles vous passent bien au-dessus. Vous avez d'autres soucis dans votre travail. Vous faites peut-être partie de ces plus 23% de jeunes salariés en congé maladie de longue durée. Un chiffre qui a sauté aux yeux de la société de conseil qui publie tous les ans le baromètre de l'absentéisme. Un absentéisme en hausse d'une année sur l'autre, de plus en plus, en hausse sur l'ensemble des activités, mais surtout la santé, on y reviendra forcément, en hausse sur l'ensemble des régions. On parle de maladies professionnelles, on parle de conditions de travail, on parle d'épuisement, même chez les plus jeunes qui peut-être ne sont pas prêts à sacrifier leur santé pour leur travail, qui réclament plus qu'on les écoute et qui entendent se préserver, qui cherchent également du sens. C'est ce que disent aussi ces chiffres. Ils disent que le rapport au travail a changé. 40 ans déjà rincés, c'est le téléphone sonne ce soir. Soyez les bienvenus.
Le téléphone sonne. 01 45 24 7000.
Jeanne, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes la première et soyez la bienvenue. Allez-y, on vous écoute.
Merci. Alors j'ai un peu plus de 40 ans, moi j'ai 49 ans.
Vous pouvez rester quand même.
C'est gentil. Je travaille dans une grande entreprise publique depuis plus de 20 ans. Et on m'a confié un deuxième poste il y a 18 mois, alors que j'avais déjà un premier poste bien chargé. Et je suis arrivée à la fin de l'année 2018 très épuisée. J'ai entrepris en mai 2019 de me faire aider par un psychologue du travail qui m'a déclaré en épuisement professionnel. Je ne me suis pas arrêtée parce que je ne sais pas pourquoi. Je suis partie en vacances. Je reviens de congé là depuis 15 jours, ça va mieux. J'ai passé 4 semaines à me reposer et à ne rien faire, ce que je m'étais jamais arrivé. Ce que je veux dire moi ce soir, en fait, c'est que la charge de travail, elle est de plus en plus importante depuis que j'ai commencé à travailler, surtout depuis entre 5 et 10 ans, que ça s'accélère. Il n'y a pas de reconnaissance. La reconnaissance, c'est pas que le salaire. C'est une hiérarchie qui reconnaît le travail qu'on fait, la valeur du travail qu'on fait, le sens qu'on y fait, qui nous donne les moyens de travailler autrement qu'avec des CDD, des intérimaires. C'est compliqué de défendre des activités quand on travaille avec des gens qu'il faut changer tous les 18 mois. Et puis, la dernière chose, c'est que plus on travaille, mieux on travaille, plus on nous en donne. Mmh. Et en fait, il reste une population, alors je vais être un peu violente dans ce que je vais dire, mais de cadres supérieurs bien installés et confortablement dans leur poste de direction, qui font pas grand-chose. Et ça retombe beaucoup sur le management intermédiaire, en fait.
Ou peut-être qu'ils ont aussi une pression sur les épaules et qu'ils la font retomber sur vous, et qu'à la fin, c'est toujours l'employé en bas qui est le plus touché, Jeanne, peut-être.
Oui, il y a cette explication-là aussi, mais dans les entreprises publiques, il y a quand même une certaine protection de l'emploi. On est quand même, je pense que si dans ces entreprises-là, on n'arrive pas à défendre certaines valeurs, c'est même pas la peine de se lever le matin.
Merci beaucoup pour votre témoignage, Jeanne, et pour cette entrée en matière qui a déjà balayé beaucoup des sujets qu'on évoquera ensemble jusqu'à 20h pour discuter ensemble. Jean-François Amadieu est là, bonsoir. Vous êtes sociologue spécialiste des relations au travail, et Serge Journoux est là également avec nous.
Bonsoir.
Bonsoir Monsieur Journoux, vous êtes responsable CGT du pôle travail santé à la Fédération de la métallurgie. Jean-François Amadieu, il y a beaucoup de choses dans ce que dit Jeanne. Ce que je retiens moi de ce qu'elle nous a dit, c'est son épuisement, c'est une charge de travail de plus en plus importante et une accélération. En fait, ça fait 5 à 10 ans qu'elle a senti que quelque chose de différent était en train de se passer dans cette entreprise. C'est des choses que vous entendez souvent.
Oui, alors elle est dans la fonction publique.
En plus, j'allais dire.
En plus, oui. Ouais. Oui, mais c'est une caractéristique. Donc, ce sont des activités de service, de tertiaire. Je ne sais pas si elle est dans le secteur de santé, mais enfin, on sait que c'est des secteurs vraiment où il y a une intensification. En fait, elle a commencé avant, c'est pas il y a 5-6 ans, l'intensification du travail, le fait qu'il soit plus dur, on peut le faire remonter aux 35 heures, grosso modo, et à partir de là, ça a été une augmentation. Donc, en fait, quand on fait les comparaisons internationales, vous savez que la France, c'est un pays où on travaille peu dans l'année, on a pas mal de congés, on est plutôt assez absent, en effet, pour maladie notamment. Mais en revanche, quand on est au travail, on travaille intensément. Donc, la productivité du travail en France est bonne, très bonne. Et donc, effectivement, on sait que le travail est intense. D'ailleurs, toutes les comparaisons de conditions de travail, européennes, par exemple, ou le montrent, c'est la caractéristique française. Tout le monde le sait, les Français ne se roulent pas les pouces quand ils sont au travail.
Serge Journoux, ce que j'entends aussi, et c'est intéressant justement que Jeanne soit travaille dans la fonction publique, donc on n'est pas là dans un problème de pénibilité physique de travail, on y viendra sûrement au cours de cette émission, ça veut dire que ce sont des facteurs qui sont pas forcément liés au type de travail, mais surtout liés à l'entreprise, au fond, et qui donnent des résultats comme cela.
Alors, ce qu'on retrouve souvent dans les entreprises, alors la fonction publique, c'est un secteur que je connais un petit peu moins, mais on le retrouve aussi dans certaines activités du secteur privé, notamment dans la métallurgie, dans les secteurs peut-être de bureaux d'études ou de recherche. On est confronté, et c'est ce qui semble faire partie de l'histoire de Jeanne, c'est on est confronté à des réorganisations qui ont l'air récurrentes et qui à chaque fois augmentent la charge de travail ou l'intensité du travail parce que on réduit le nombre de personnes, ça renvoie à l'organisation du travail, on réduit le nombre de personnes souvent pour une même charge de travail, ce qui fait qu'on a des personnes qui se retrouvent en situation de surcharge, d'épuisement, de fatigue intense. Ça peut entraîner également des effets physiques, mais on y reviendra probablement après, des effets physiques justement du fait du stress créé par cette situation.
Et on ne s'arrête pas. Jeanne dit, je ne me suis pas arrêtée. Oui, le médecin m'a dit que j'étais épuisée, mais au fond, je me suis dit que je tiendrais le coup. On ne s'arrête pas, en fait, dans ces cas-là.
Alors,
certains le font, bien sûr, mais j'entends le réflexe de Jeanne,
oui,
en fait.
Sauf qu'apparemment, c'est vrai que les études nous montrent que, il y a un certain nombre de gens quand même qui choisissent de s'arrêter ou qui sont obligés de le faire.
L'absentéisme et surtout longue durée, c'est ça qui est intéressant.
Longue durée, oui, il faut préciser pourquoi la longue durée c'est important, c'est parce que c'est ce qui coûte le plus cher au pays. Donc, si vous voulez, c'est pas qu'il y ait beaucoup de salariés qui soient en arrêt de très longue durée, disons de plus de 3 mois. C'est vrai que c'est le problème principal. D'autant plus que.
Ce que ça veut dire, c'est que c'est pas des maladies basiques. C'est quand on a longue maladie, c'est 90 jours. Congé, c'est 90 jours.
Donc
ça veut dire que c'est très sérieux.
Ça dépend, il y a plusieurs mesures. Disons qu'on considère souvent à 3 mois, parfois on regarde au-delà de 6 mois. En tous les cas, c'est des arrêts de longue durée, c'est de la longue durée, ou des affections de longue durée, c'est encore autre chose. Mais si vous voulez, ça pose des problèmes, une fois de plus, pas seulement de coûts, mais c'est de retour au travail. Et ça, c'est un problème qui est bien connu, pas seulement en France d'ailleurs, c'est que c'est un problème supplémentaire. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'études sur ça, et on sait que quand on a dû s'arrêter, remettre la machine en route, retrouver une productivité à 100%, c'est compliqué. Et on sait d'ailleurs, si vous vous souvenez des suicides qui avaient eu lieu il y a déjà quelques années, oui, tout à fait, dans ces affaires-là, comme vous le disiez, Monsieur Journoux, très bien, il y avait des questions de réorganisation, de productivité, beaucoup de réorganisation. À la Poste, c'était pareil. Mais ce qui se passait aussi, c'est que des gens revenaient travailler parfois après s'être arrêtés justement pour une longue maladie. Et le management n'avait rien fait, rien ne s'était passé. Et ça, effectivement, c'est très compliqué. Alors, on sait que beaucoup de gens, du coup, vont perdre leur emploi ou vont à nouveau devoir arrêter de travailler. C'est une situation qui est c'est un problème particulièrement important.
Avant qu'on retourne au standard, cher Journoux, moi, ce que j'ai lu aussi dans cette fameuse étude et qui éclaire ce que dit Jean-François Amadieu, notamment sur le retour, c'est il y a quelque chose de simple qui était presque émouvant dans cette étude. Les gens aiment bien qu'on les appelle pendant. Pour pas avoir le sentiment que de toute façon l'entreprise elle fonctionne sans eux, qu'ils soient là, qu'ils soient pas là, au fond ça change pas grand chose, ce qui ne facilite pas le retour lorsqu'ils sont venus, puisqu'après tout le monde s'est habitué à leur absence.
Je pense que ça rejoint ce que dit M. Amadieu sur la question de la reconnaissance. C'est un point important, et les appeler pendant leur absence, c'est quelque part reconnaître leur importance dans l'entreprise. Après, c'est quelque chose qui est délicat pour l'employeur, parce que c'est quand même cadré légalement.
Il ne faut pas que ça ait l'air de harcèlement, il ne faut pas le faire en dehors de certaines heures pour pas que ça ait l'air d'une vérification de quelque chose.
Oui, mais vous avez raison.
Mais ça peut être un collègue de travail aussi.
Mais c'est une question de reconnaissance, en effet. Et puis, c'est pas dans l'air du temps, mais je dirais que ça s'est fait aussi, d'autres pays l'ont fait en Europe avant nous, on a commencé à le faire, c'est l'idée que la personne, elle n'est pas soit dans l'entreprise, soit à l'extérieur. C'est pour ça qu'on a introduit l'idée que vous pouviez peut-être être en temps partiel. Disons, c'est une idée qui fait son chemin, mais qui malheureusement n'a pas assez progressé, c'est qu'on n'est pas dehors, c'est-à-dire arrêté, ou dedans à 100% ou à 110% de productivité. Il y a beaucoup de situations intermédiaires, et c'est ça, on sait qu'en France, ce qui manque beaucoup, c'est de savoir finalement trouver ces marges de manœuvre, cette souplesse qui permet de maintenir des gens en activité, voire en partie de chez eux, etc., mais sans que ce soit tout ou rien, vous voyez.
Bonsoir Pauline.
Oui, bonsoir.
Bienvenue au téléphone sonne, Pauline.
Merci. Donc moi je voulais témoigner, j'ai tout juste 30 ans, je travaille dans l'industrie depuis quasiment 5 ans, dans un service de sécurité environnement au travail, donc qui s'occupe de la sécurité et de la santé des salariés dans l'entreprise. Et il y a un écart important entre ce que l'entreprise vend à l'extérieur comme étant des programmes sécurité, des programmes environnement, de ce qu'elle fait pour l'entreprise, et la réalité, avec des doubles discours qui provoquent du stress, des gens qui ont envie de faire les choses correctement mais qui n'en ont pas les moyens. Et pour parler justement des gens qui travaillent dans la sécurité, dans l'environnement, à titre d'exemple, donc qui essaient d'aider leurs collègues à se sentir bien dans leur travail. Mmh. Les personnes qui étaient à l'école avec moi et que je côtoie toujours aujourd'hui, donc qui sont sorties il y a de cela moins de 5 ans, je n'en connais plus aucun qui travaille dans la sécurité et l'environnement aujourd'hui. Et énormément ne veulent plus travailler dans une entreprise et essayer de se tourner soit vers la fonction publique, soit vers des associations pour retrouver du sens dans ce qu'ils veulent faire.
Et Pauline, pourquoi vous restez, par exemple, quand vous voyez vos collègues qui sont partis? Ça veut dire que vous tenez mieux le choc ou que vous avez plus de chance dans votre fonction? Pourquoi vous, qui avez le même âge que vos camarades de promo, comme vous dites, êtes resté?
Pour le moment, je pense parce que je tiens le choc, je ne sais pas pour combien de temps. Je me pose moi-même des questions sur le sens de ce que je peux faire actuellement. Après, il faut pas mettre toutes les entreprises dans le même panier. Mm-hmm. Il y en a certainement qui font des choses bien, où on a peut-être on sort d'école aussi, où on nous forme à ce qu'il y a de mieux, à essayer de construire pour demain, et peut-être que notre génération a un peu de mal à trouver sa place aussi dans l'entreprise pour faire avancer les choses dans ce qui nous semble important et dans ce qui est pour nous l'entreprise de demain.
Merci beaucoup pour ce témoignage, Pauline, et bon courage à vous. Comme je retiens quand même, pour l'instant, je tiens le choc. Vous avez donc besoin de courage pour aller travailler le matin. Merci vraiment. Merci mille fois. Serge Journoux, il y a une manière d'entrer dans l'entreprise aujourd'hui, quand on a 30 ans, quand on est Pauline, qui n'a rien à voir avec celle qu'on avait autrefois, quand on allait bosser.
Probablement, parce que les attentes sont différentes à la fois des salariés, à la fois des employeurs. Ce que nous raconte Pauline, c'est intéressant parce que ça renvoie à l'image de l'entreprise. Mmh. Son entreprise, elle a une jolie façade, elle a des choses qui sont intéressantes à communiquer, mais en fait, quand on gratte le vernis derrière, il y a des choses moins luisantes. Mmh. Et on le retrouve souvent sur les grandes entreprises qui sont... Alors, moi, je ne vais pas citer de nom d'entreprise, mais qu'on connaît beaucoup dans les médias, qui sont très reconnus dans leurs activités. Souvent, quand ils ont des questions de travail un peu particulières, un peu dangereuses, souvent ils sous-traitent ces questions-là à d'autres entreprises pour qu'ils puissent montrer des chiffres en termes de qualité de vie, environnement ou de conditions de travail qui soient quasiment idéales, alors que la partie difficile du travail est sous-traitée à parfois des rangs 2 ou 3. Plus le risque est important, plus on le sous-traite loin. Il y a eu un exemple assez intéressant en région parisienne l'année passée, deux grandes entreprises de l'aéronautique qui ont des très belles façades, sous-traitaient une partie de leur activité de traitement de surface dans la banlieue parisienne. Et les riverains, quand ils ont su les produits qui étaient utilisés, qui sont des produits aujourd'hui interdits, dans des petites entreprises, petites structures, et qui ne permettent pas forcément d'avoir un suivi en termes de conditions de travail suffisant. Ces entreprises, elles ont une belle façade, mais souvent elles sous-traitent le mal travail dans d'autres entreprises de sous-traitance.
Jean-François Madieu, ce que est intéressant aussi dans le témoignage de Pauline, c'est qu'il y a, comme je le disais à l'instant, il y a peut-être des choses que nos parents faisaient. On rentre dans l'entreprise, on y bosse, et puis après on rentre chez soi, on a fermé la porte. Aujourd'hui, on attend autre chose de sa boîte quand on a 30 ans comme Pauline ou comme ses camarades de promo.
Oui, alors faut distinguer deux choses. C'est vrai que là, ce
qui a changé, en effet, c'est que il y a une responsabilité sociale, sociétale, environnementale, etc., que les entreprises elles-mêmes la mettent en avant, l'utilisent. Il y a derrière des contraintes aussi. Donc, tout ça, effectivement, existe dans le monde entier. Maintenant, Pauline, et justement à un âge de basculement ou un peu clé, où je dirais que la réaction des plus jeunes, qui sont encore au collège, au lycée ou jeunes étudiants, leur appréciation va évoluer au bout de quelques années d'expérience professionnelle. Mmh. Parce que, en réalité, chez les jeunes...
Parce que c'est l'idée qu'on ne sait pas à quoi ressemble le marché du travail avant d'y rentrer.
Oui, c'est tout à fait frappant. Mmh. Les jeunes ne le savent pas, tous les sondages qu'on fait le montrent.
Donc on a l'impression qu'on va changer le monde et en fait on change pas le monde.
Oui, c'est ça. Beaucoup d'une sorte de candeur, de naïveté, heureusement, d'espoir. Bon, tout ça est très optimiste. On s'aperçoit qu'au fur et à mesure...
C'est quand même vachement bien, pardonnez-moi, d'avoir envie de changer le monde quand on a 25 ans. C'est mieux que d'entrer dans l'entreprise en se disant vivement la retraite.
C'est bien ce qui va se passer au bout de quelques années, c'est que effectivement ensuite les désillusions, les constats que faisait Pauline ou précédemment votre autre auditrice aussi à 49 ans, voyez, donc là c'est un âge où on a un peu plus de vécu professionnel. Après, faut se méfier des effets de génération, scientifiquement parlant, si vous voulez, et dans le monde entier, on considère qu'il y a finalement peu de différence d'une génération à l'autre. Les personnes elles-mêmes, les préoccupations, voyez, d'environnement, de sens, etc., existent, mais au fond à tous les âges, toutes les générations sont en fait préoccupées de la même manière par ça. Donc il ne faut pas là-dessus les exagérer. C'est plutôt, là, dans ce que montre Pauline, c'est plutôt elle a 30 ans. Voilà la différence. C'est peut-être pas sa génération simplement. Voilà.
Bonsoir Goulven.
Oui, bonsoir.
Vous avez déjà appelé hier Goulven, non ?
J'ai déjà appelé.
Ouais, parce que des gens avec un prénom comme vous, il n'y en a pas beaucoup. C'est pour ça que je me posais la question, en fait.
Non, j'ai pas appelé France Inter depuis au moins 15 ans.
Ah, ça, c'est dingue. Deux Goulven coup sur coup. Allez, on vous écoute. Allez-y.
Moi, j'apporte mon témoignage de ce que j'observe. Moi, je suis membre d'un comité d'hygiène, de sécurité, des conditions de travail dans un hôpital d'à peu près 2500 salariés. Et l'épuisement, on l'observe pas forcément qu'autour de 40 ans. On observe déjà que les gens subissent la pression au travail du fait des restrictions de personnel depuis plusieurs années, à peu près tous les deux ans. Il y a des économies à faire et donc c'est sur le personnel qu'elles se font en général. Les gens, ils ont du mal à faire leur travail. C'est des gens qui sont professionnels, les soignants comme les autres corps de métier qui sont sur l'hôpital. Ils n'arrivent plus à parler du travail parce que ils ne savent plus comment faire bien avec le peu de moyens qu'on leur donne. En fait, l'encadrement, comme le disait tout à l'heure un monsieur qui intervenait, ou une dame, subit une grosse pression des DRH pour que le travail se fasse. On se demande même si c'est pas une fabrique à épuisement psychique pour que les gens obéissent et fassent ce qu'on leur demande de faire. En tout cas, il y a des conséquences qui sont énormes dans l'hôpital où je travaille et dans les hôpitaux des environs. C'est qu'il y a beaucoup de gens qui partent. Même quand ils sont fonctionnaires, c'est-à-dire qu'ils prennent une disponibilité. Ils sont placés par des contractuels, et les contractuels, ils ont beaucoup moins de droits que les autres salariés, et les managers en font un peu ce qu'ils veulent, quoi.
Merci pour votre témoignage, Goulven. Ce qui m'épate à chaque fois, Jean-François Amadieu, c'est que à chaque baromètre de ce type-là, quelle est la profession la plus touchée ? Profession de santé.
Toujours.
Et c'est ce que nous explique ici Goulven. À chaque fois, ça ne change pas. Alors, quand on voit, on l'a traité il n'y a pas si longtemps, au téléphone sonne en ce moment, grève des urgences, grosses difficultés dans les hôpitaux, bien sûr, mais c'est quand même extraordinaire que ça ne change jamais, en fait. On a l'impression que ces choses que nous raconte Goulven se reproduisent d'année en année, de décennie en décennie.
Oui, bien sûr, parce que ce soit dans l'hôpital public ou dans le secteur privé, on le voit dans la dernière enquête, en effet, là, qui portait pourtant sur le secteur privé, le secteur de santé est un secteur, en effet, de ce point de vue, sinistré. C'était très bien rappelé. Alors, il n'y a pas seulement une question d'intensité du travail, de manque d'effectifs. Après, le problème particulier de l'hôpital, c'est que c'est là qu'on trouve des personnels qui
sont extrêmement motivés par, pour le coup, par la mission qu'ils accomplissent. C'est ça qui, pour eux, va être un élément très important. Il y a d'autres professions comme ça, par exemple, les enseignants aussi sont motivés de cette manière. Mmh. Mais du coup, si dans ce contexte-là, qui est celui du secteur de santé, hôpital, si vous introduisez une logique basée sur d'autres types d'incitations, sur du contrôle plus managérial, si cette logique-là perturbe profondément des personnels qui, on le sait, à l'hôpital, ont le sentiment d'accomplir une mission, ce qu'ils font a un sens. Donc, du coup, c'est très déstabilisant dans ces cas-là. C'est pour ça que je fais le parallèle avec l'enseignement, l'école. Ça peut être la même chose. Il faut faire très attention. C'est des gens qu'on ne motive pas de la même manière. Vous pourriez en parler, monsieur Journeau, dans la métallurgie, dans le secteur industriel, c'est différent. Vous pouvez avoir d'autres instruments pour motiver les gens, les primes, les salaires, etc. C'est différent. Là, vraiment, pour ces types de personnel, il y a des facteurs de motivation très particuliers.
Serge Journeau, est-ce qu'il y a des facteurs de motivation effectivement qui sont très différents avec ces deux secteurs-là qui sont vraiment très à part ? Chez vous, par exemple, dans la métallurgie, moins ?
Au-delà des facteurs de motivation, c'est quand même beaucoup la question de l'organisation du travail. Cette question d'organisation du travail qui est née par le toyotisme dans l'automobile, qui est le Lean. Il a commencé dans les années 80-90 dans l'automobile et petit à petit s'est développé un petit peu de partout, notamment dans les professions de santé, notamment à l'hôpital, mais dans les EHPAD, on le retrouve dans tous les secteurs d'activité. Le Lean, c'est quoi ? C'est produire mieux, produire plus rapidement et avec moins de moyens pour réduire les coûts. Dans le secteur de fabrication d'automobile, comme vous le dites, au niveau éthique, on aime quand même la qualité du travail, c'est important. Mais ça n'a pas forcément le même impact que quand on soigne quelqu'un à l'hôpital.
Bien sûr, ouais.
Et c'est beaucoup plus facile, beaucoup plus difficile à gérer pour un soignant que pour un métallurgiste, je le rappelle, ça a quand même un impact important.
Édouard, bonsoir.
Bonsoir.
Bienvenue Édouard, on vous écoute.
Eh ben, tout d'abord, je voulais vous remercier pour votre émission que j'écoute tous les jours avec grand intérêt.
Eh ben, merci Edouard. Surtout continuez.
Eh ben, très bien. Alors, je venais vers vous simplement pour témoigner. Donc, pour ma part, j'ai 27 ans. Je suis directeur d'agence dans une société de services. Je vais démissionner. Tout simplement parce que j'arrive un peu à bout. Et donc, mon témoignage, c'est ce que je peux voir, moi, dans mon entreprise. C'est beaucoup de jeunes qui démissionnent. Parce que justement, on va arriver à un point où on est plus capable de tenir le rythme, tenir la pression, et du coup, plutôt que de finir en arrêt maladie, on a beau aimer notre métier, moi j'aime beaucoup mon métier, il y a un moment, on a une vie personnelle, on a une vie à côté, et puis on a du mal à tenir le coup, quoi.
Et vous dites ça veut dire que vous êtes nombreux dans votre agence, par exemple, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'ils sont obligés aussi de renouveler le personnel extrêmement souvent. Concrètement,
oui.
Ça veut dire quoi chez vous ?
Oui, concrètement, c'est ça. Alors, en l'occurrence, c'est sur différentes agences, mais on voit un turnover qui est quand même très élevé. Et puis, c'est de la population jeune, donc quoi. C'est-à-dire, finalement, on sort d'études, on trouve pas vraiment de travail, et puis finalement, on est capté. Moi, par exemple, j'ai une formation d'ingénieur chimiste, je travaille pas du tout dans la chimie, mais voilà. On vient nous capter, on vient un peu nous presser parce qu'on sait qu'on va travailler, et qu'on va aller de l'avant, et puis finalement on s'épuise complètement.
Et Edouard, est-ce que vous savez ce que vous avez envie de faire, ou est-ce que là vous partez sans rien et vous sautez dans le vide ?
Là je saute dans le vide. Là je saute complètement dans le vide, j'ai absolument aucun plan.
Eh ben merci beaucoup pour ce témoignage et continuez donc à nous écouter. Jean-François Amadieu, Edouard, il y va, il n'a pas de boulot derrière. On est dans un monde qui est compliqué aujourd'hui. Trouver du travail, c'est difficile. C'est dire quand même dans quel état des jeunes comme lui finissent par être pour pouvoir se dire, c'est pas grave, je trouverai bien quelque chose quand même.
Oui, tout à fait. Alors aussi, ce qui se passe en ce moment, et que le cas d'Edouard est tout à fait exemplaire, c'est que... À l'heure actuelle, compte tenu de l'état du marché du travail pour les diplômés et pour les cadres, nous savons que de plus en plus de jeunes et de moins jeunes font exactement le calcul d'Edouard. C'est-à-dire qu'en effet, ça ne va pas, la boîte ou le job n'est pas satisfaisant, on peut être mobile, donc il y a un turnover qui s'accélère, et effectivement, on voit que c'est un élément qui joue beaucoup, qui modifie actuellement pas mal les comportements, parce que le marché du travail des cadres est très tendu. Donc c'est le cas d'Edouard. Par ailleurs, Edouard est aussi une illustration de quelque chose qu'on observe, c'est qu'il y a plus d'intérêt à son âge pour la conciliation vie professionnelle, vie privée. Donc ça, c'est quelque chose qui
est effectivement la question que j'allais
vous poser. Que par le passé.
Exactement. Voilà. Autrefois, on y allait, on pouvait faire des sacrifices. Serge Journoux, on a l'impression qu'aujourd'hui, on ne sacrifie pas sa santé au travail. C'est pas l'un ou l'autre, c'est les deux.
On parlait tout à l'heure du contexte de l'entrée dans l'entreprise. Je pense que là, c'est un bel exemple. Quand on rentrait il y a 20 ans ou 30 ans dans une entreprise, on pensait y passer beaucoup de temps. Peut-être pas toute sa carrière, parce que pour les cadres, il fallait quand même tourner un petit peu, mais on pensait y passer beaucoup de temps. Donc l'investissement, il était fait avec une idée de durée, quoi. Aujourd'hui, les jeunes qui rentrent dans les entreprises, ils savent très bien que leur carrière ne va pas se faire dans la même entreprise, ils n'ont pas le même lien, pas la même affinité avec l'entreprise, donc c'est beaucoup plus facile de se dire ça me convient pas, ça convient pas à ma vie privée, puisque finalement cet investissement qui se mettait avant dans l'entreprise, peut-être il revient sur l'intérêt de la famille ou du cadre familial. Donc voilà, je pense que ça c'est quelque chose qui a changé, c'est vraiment cette relation à l'entreprise qui est pas forcément la relation au travail, mais la relation à l'entreprise qui a changé.
Et en parlant de pénibilité, de pas échanger sa santé contre son travail, je voudrais qu'on écoute Gérard. Bonsoir Gérard.
Oui, bonsoir.
Bienvenue Gérard.
Moi je travaille dans une entreprise de service public qui s'appelle France Télévisions. Je viens de partir en retraite, j'ai été caméraman et je suis en même temps conseiller qualité de vie au travail. Ce que je constate, c'est qu'il y a une augmentation des rythmes de travail et de la charge de travail substantielle ces dernières années. Et que parallèlement au fait qu'on augmente la charge de travail et la complexification du travail, on crée parallèlement un service qualité de vie au travail qui sert principalement à dire ben voilà, on fait quelque chose et puis on obtient des labels et puis on communique autour de ça, voilà.
Donc si vous avez mal, venez nous voir, mais alors que la solution ce serait peut-être de ne plus avoir mal, en gros.
Ben en gros c'est ça. Et alors la formation, par exemple, la formation qualité de vie au travail, moi j'ai fait une formation assez longue et assez intéressante et passionnante. On vous explique, il y a des interlocuteurs et des formateurs très intéressants, parce que des gens qui sont extérieurs à l'entreprise, mais après ça, quand on dit ben, qu'est-ce qu'on fait, ben, en fait, on fait rien.
Et est-ce qu'on vous répond aussi, Gérard, parce qu'on l'a un petit peu évoqué tout à l'heure, mais les outils ont changé. Vous qui êtes GRI, vous êtes à la retraite maintenant, donc vous avez dû porter des caméras très lourdes et puis des caméras moins lourdes. Donc est-ce que c'est des arguments qu'on vous donne, ça aussi? Ah oui, mais c'est moins pénible maintenant que ça l'a été autrefois.
Non. Alors c'est pas des arguments. D'abord, je suis pas géré, moi je suis caméraman sur les plateaux.
Ah pardon, d'accord.
Mais les caméras sont pas de plus en plus légères. Elles s'alourdissent.
Mais non, sur les plateaux, c'est autre chose, en effet, ouais.
Non, mais elles s'alourdissent, y compris les caméras portables. Et en plus, il y a de plus en plus d'informatique, de gestion électronique, ce qui fait que le travail se complexifie. Il se complexifie et on fait de plus en plus d'émissions différentes chaque jour où on change d'équipe, on change de réalisateur, on change de responsable et il faut s'adapter. Il y a un effort d'adaptation très très fort qui est demandé aux équipes. Et avec tout ce processus, on nous demande de partir plus tard à la retraite. Donc en gros c'est quasiment impossible. Donc c'est pas étonnant quand j'entends qu'il y a de plus en plus d'arrêts de travail dans maladie. Et je constate que c'est effectivement le cas, et c'est d'autant plus difficile pour les gens qui reviennent de longue maladie, quand ils se sont absentés pendant quelques mois, quand ils reviennent, le rythme de travail a encore augmenté. Donc en gros, ils n'arrivent même pas à se remettre dans le rythme de travail qu'ils avaient déjà du mal à supporter. On leur demande de se réadapter à quelque chose encore plus compliqué pour eux.
Merci beaucoup Gérard, et du coup on vous souhaite une bonne retraite, puisque vous êtes à la retraite, et embrassez nos amis d'en face à France Télévisions. Ce que je retiens dans ce que nous a raconté Gérard, Jean-François Amadieu, c'est on fait des efforts, donc en gros l'entreprise met en place un certain nombre de process, mais qui sont visiblement pas en conformité avec ce que les salariés attendent. On a plutôt l'impression que tout ça n'est pas réellement pris en compte par les entreprises, ou est-ce qu'on apprend à le prendre en compte?
Oui, mais c'est-à-dire que, en fait, parce que c'était abordé également par un de vos autres auditeurs, c'est le souci de la qualité de vie au travail, de la QVT comme on dit, ou de ces questions, burn-out, stress, etc., risque psychosocial. C'est les DRH qui s'en préoccupent. Le problème auquel on est confronté quand même, c'est que vous avez, c'est la ligne managériale elle-même, ceux qui vont prendre les décisions à la fois d'organisation, mais surtout définir les objectifs, la productivité, ce qu'on fait, etc. Donc les grands choix, si vous voulez, d'organisation et d'activité sont faits par ce qu'on appelle les opérationnels. Le DRH, ce que j'entendais tout à l'heure, je crois, un de vos auditeurs dire que c'est les DRH donnaient les consignes aux managers. C'est pas les DRH qui donnent les consignes aux managers. Mmh. Les managers les reçoivent d'autres managers. Mmh.
Et c'est ce qu'on disait avec notre première auditrice, mais qui commence
oui, mais c'est pas le DRH.
Qui fait tomber la responsabilité sur celui du bas.
Le DRH ne donne aucune consigne. Il n'est pas dans la ligne managériale. Et souvent, il faut le dire, il compte souvent un peu pour du beurre. Donc effectivement, c'est un peu en parallèle. Il n'est pas forcément audible. Et puis, tous les DRH n'ont pas la même fibre non plus, ou le même courage. Mais c'est vrai que c'est bien ça qu'il faut comprendre. C'est un problème managérial. Hein,
quelques questions en rafale sur franceinter.fr précisément. J'ai 39 ans, je suis à bout. Premier jour de reprise après les vacances, j'ai pleuré au bureau. J'ai l'impression de courir un marathon sans arriver. Trop de charges de travail, mais pas assez de moyens. Une question pour vous, Serge Journoux, plutôt. Pourquoi ne pas dire non? Vous, puisque vous êtes syndicaliste, vous êtes celui qui avait le droit de dire non, en fait, et vous le dites dans les entreprises lorsqu'il le faut. Donc pourquoi ne pas dire non, nous demande cet internaute, quand on ne peut pas répondre à une charge de travail trop importante?
Il y a la possibilité de dire non, mais avec, je vous dis ça, c'est dans l'absolu. Après, il y a le contexte. Évidemment, il y a ce qui s'appelle le droit d'alerte. Quand il y a une problématique de ce genre-là, que ce soit une question de charge de travail, d'épuisement, il y a plusieurs voies. Il y a la voie du syndicat, s'il y a un syndicat de l'entreprise, des représentants du personnel, qui peuvent mettre cette question-là sur la table. Mais il y a aussi la médecine du travail qui peut agir. Tout dépend le contexte, tout dépend la structure. Si la structure est petite, c'est compliqué de dire non, parce qu'il n'y a pas forcément de représentants du personnel. C'est se mettre en danger dans une situation où l'emploi n'est pas forcément très développé. Et voilà.
On a cette remarque de Pauline que je voudrais vous donner à l'antenne. Pauline qui dit, j'ai envie de dire quand même que c'est une chance tous ces arrêts de salariés que les salariés peuvent prendre. Pardon. Je suis auto-entrepreneuse, dit-elle, depuis 8 ans et je ne peux pas m'arrêter longtemps. Parfois j'ai envie de changer de travail. Je n'ai que 35 ans et je suis épuisée. Et c'est bien qu'elle le dise, Pauline, et c'est une réalité. Certains, y compris avec ce nouveau statut d'auto-entrepreneur, Jean-François Amadieu, n'ont absolument pas les moyens de s'arrêter de toute façon, ou alors c'est à leurs frais.
Oui, tout à fait. On sait bien que c'est, il y a en France des situations extrêmement différenciées, que d'ailleurs on trouve pas dans tous les pays, mais les régimes, si vous voulez, d'indemnisation pour les gens de la fonction publique et les gens des grandes entreprises privées, hein, disons 70% à peu près des boîtes sont très favorables, c'est sûr. Et par comparaison, bah oui, pour les entrepreneurs, c'est bien différent.
Il y a Marie qui nous dit, est-ce qu'on ne devrait pas s'absenter, on devrait pouvoir, pardon, s'absenter une journée sans certificat médical, le fameux jour de carence, qui aujourd'hui a été égalisé pour tous, on est d'accord, public, privé, ou pas encore? Où est-ce qu'on en est, en fait?
Non, justement, alors dans la fonction publique, on a réintroduit ce fameux jour de carence. Dans le secteur privé, il y a une règle de droit commun de 3 jours, mais qui en fait est largement dépassée par beaucoup d'entreprises et qui font cadeau, continuent à faire cadeau de ce jour de carence. Je crois qu'il y a 65% des entreprises qui payent le fameux jour de dès le premier jour.
Serge Journoux, là-dessus.
Oui, c'est une situation qu'on retrouve beaucoup. C'est soit les entreprises, soit les conventions collectives qui couvrent ces périodes-là. La question qui est posée sur ces nouveaux statuts de salariés qui sont un peu particuliers, d'auto-entrepreneurs, là aussi, c'est une façon pour les entreprises de sortir le risque de l'entreprise. Oui. Et finalement, c'est la réduction des coûts qui est derrière. Quand le salarié, il est auto-entrepreneur, c'est lui qui prend en charge ses cotisations, c'est lui qui prend en charge son arrêt maladie. Oui. Et on voit bien l'impact que ça peut avoir.
Peut-être qu'il faut ajouter sur le puisque vous abordiez la question du jour de carence. On est absolument certain, par beaucoup d'études françaises et internationales, que ce soit dans le privé ou dans le public, c'est une très mauvaise idée de pénaliser dès le premier jour les salariés ou les fonctionnaires. Il faut pas faire ça, c'est une très mauvaise idée. Pourquoi ? Parce que
du coup, on prend deux jours ou trois.
Parce que les gens prennent plus de jours, voilà. Et puis d'autre part, on sait aussi que ça va pousser les gens à faire du présentéisme. Donc ils viennent, mais ils bossent pas, ils vont passer leur gastro ou leur grippe aux autres. Donc en fait, c'est une mauvaise idée. Tout le monde le sait, donc c'est un peu voilà, on agite cette idée, mais ça sert vraiment à rien et c'est mal perçu par les personnels.
Psychologiquement, ça veut dire
c'est pas bon.
Vous tirez au flanc, vous voulez vous arrêter pour autre chose.
Et puis il y a de vrais malades, il y a des gens qui le sont pour de bon. Donc finalement, vous faites payer à ceux qui sont malades pour de bonnes raisons, qui le sont vraiment, le fait que d'autres ont voulu tirer au flanc. Donc ça sert à rien et au total, on gagne pas d'argent avec ça, pas un copec.
Allez-y.
Je suis tout à fait d'accord avec monsieur Amadieu. C'est pas forcément un bon calcul de pas s'arrêter sur des petits arrêts. On va tirer sur la corde et au fil du temps finalement sur des choses comme les troubles musculo-squelettiques, ça va aggraver les choses et ça va pas permettre de gagner finalement du temps de travail. Au contraire, ça va impacter la santé beaucoup plus violemment, mais plus tard.
On parlait tout à l'heure de responsabilité en cascade, de qui commence et sur qui la pression redescend. Je voudrais qu'on écoute Henri. Bonsoir Henri.
Bonsoir.
On vous écoute.
Je vous appelle parce que moi, j'ai été cadre supérieur. À 36 ans, j'ai fait un burn-out. J'ai pas fait d'études. Je travaillais dans une entreprise de service, dans le privé. J'ai donné beaucoup de moi-même, d'investissement personnel pour gravir les échelons petit à petit. Je pense même à avoir laissé un morceau de ma santé, de ma vie privée. J'ai été formé pour petit à petit charger le travail de mon personnel et trouver la limite pour qu'ils donnent leur maximum. Et dans ce travail, une partie consistait à aussi donner trop de travail à quelqu'un pour le faire craquer, qui partent en arrêt maladie et qui ne reviennent plus. Et ça faisait partie de mon travail et c'était ce que me donnait ma hiérarchie à faire. Alors moi, j'en ai fini par culpabiliser et tomber moi-même en burn-out et en arrêt maladie parce que j'avais l'impression de briser des vies complètement. Voilà. Et par rapport à ce que m'ont dit vos intervenants précédemment, moi, j'étais dans le privé, donc pas du tout dans le public. Et il y a une vraie opposition entre les DRH et les managers, parce que les DRH ne veulent pas qu'on pousse au burn-out les salariés, alors que les managers, ils nous disent « Allez-y, on s'en fout, c'est de la chair à canon ».
Et qu'est-ce que vous faites maintenant, Henri, du coup ?
Et ben maintenant, j'ai passé de quelques années au chômage et suite à ma fin de droit, parce que je suis allé jusqu'à ma fin de droit de chômage, je me recycle. Je suis en train de faire une formation dans l'ébénisterie.
Ah ben. Merci beaucoup, merci vraiment pour ce témoignage et Jean-François Amadieu. Alors on passe du coq à l'âne, j'allais dire, dans le travail d'Henri qui maintenant fait une formation d'ébénisterie. Il y en a beaucoup qui font des trajets comme le sien effectivement pour aller retrouver le travail manuel et le sens des choses. Moi je reviens sur ce que nous a dit tout à l'heure, il y a une espèce d'affrontement entre le DRH et les managers.
Oui, dans un certain nombre de cas. Alors, pas tout le temps, parce qu'il y a des DRH qui se posent pas trop de questions, on le sait, et qui, au fond, acceptent de ne pas agir de façon éthique. Mais enfin,
il y a aussi des managers qui font bien leur boulot. Enfin,
exactement. Voilà. Mais il y a 50% des DRH qui, dans une enquête récente, expliquaient qu'il leur était arrivé d'agir contre leur éthique. Donc, il y en a quand même pas mal qui sont obligés, eux-mêmes, DRH, je parle même pas des opérationnels et des managers, qui sont obligés, en effet, d'agir de façon non éthique. Et ils le savent.
savent. Donc ça pose des problèmes à un certain nombre, en effet, de cadres en particulier. Puis, tout à l'heure, vous aviez aussi un auditeur qui disait qu'au retour de vacances, la personne avait envie de pleurer. Vous savez qu'un cadre sur 10 a pensé dans l'année à se suicider en France. Donc faut bien voir que c'est des situations assez fréquentes d'arriver la boule au ventre au travail.
Ce sera le mot de la fin, qu'on aurait préféré un peu plus optimiste, mais ce sera le mot de la fin. Ça veut dire qu'il y aura d'autres sujets, évidemment, sur le travail au téléphone sonne et que on sera ravis de vous réinviter tous les deux pour en parler. Merci beaucoup. Merci pour vos nombreux appels également. Dans un instant, c'est Laura Adler pour l'heure bleue, comme tous les soirs. Et sinon, il est 20h.